Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Esther, chapitre 9. Ainsi, le 13e jour du 12e mois, que nous avons déjà dit s'appeler Adar, quand le massacre des Juifs était préparé et que leurs ennemis respiraient le sang, les Juifs, au contraire, commencèrent à être les plus forts et à se venger de leurs adversaires. Et ils s'assemblèrent dans toutes les villes, les bourgs et d'autres lieux pour étendre la main contre leurs ennemis et leurs persécuteurs. Et nul n'osa résister parce que la crainte de leur puissance avait saisi tous les peuples. Car les juges des provinces et les chefs et les gouverneurs et tout dignitaire qui était préposé à chaque lieu et à chaque ouvrage élevaient les Juifs par crainte de Mardochée, qu'on savait être prince du palais et pouvoir beaucoup. La renommée de son nom aussi croissait tous les jours et volait dans les bouches de tout le monde. C'est pourquoi les Juifs frappèrent leurs ennemis d'une grande plaie, et les tuèrent, leur rendant ce qu'ils s'étaient préparé à leur faire à eux-mêmes. Tellement que même dans Suse, l'Agagite, ennemi des Juifs, dont voici les noms, par Sandata, Delphone, Espata, Porata, Adalia, Ardiata, ils tuèrent 500 hommes, outre les 10 fils d'Aman, Permesta, Arisaï, Aridaï et Jezata. Lorsqu'ils les eurent tués, ils ne voulurent pas toucher à leurs biens. Et aussitôt le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse fut rapporté au roi, qui dit à la reine, « Dans la ville de Suse, les Juifs ont tué 500 hommes, et de plus les 10 fils d'Aman. Combien grand pensez-vous qu'est le carnage dans toutes les provinces? Que demandez-vous de plus, et que voulez-vous que je commande de faire ?» Esther lui répondit, « S'il plaît au roi que le pouvoir soit donné aux Juifs de faire encore demain dans Suse ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus aux potences. » Et le roi ordonna qu'il fût fait ainsi. Et aussitôt l'édit fut affiché dans Suse, et les 10 fils d'Aman furent pendus. Les Juifs s'étant assemblés le 14e jour du mois d'Adar, tuèrent 300 hommes dans Suse, mais ils n'enlevèrent pas leurs biens. Et dans toutes les provinces qui étaient sous la domination du roi, les Juifs défendirent leur vie et tuèrent leurs ennemis et leurs persécuteurs, tellement qu'il y en eut jusqu'à 75 000 de tués. Mais nul Juif ne toucha à rien de leurs biens. Or le 13e jour du mois d'Adar fut pour tous le premier du massacre, et au 14e jour ils cessèrent de tuer. Ils établirent que ce jour était solennel, en sorte qu'ils passeraient tout ce temps-là à l'avenir, dans les banquets, dans la joie et dans les festins. Mais ceux qui dans la ville de Suse avaient exercé le carnage étaient encore pendant le 13e et le 14e jour du même mois occupés au carnage. Mais au 15e jour, ils cessèrent de frapper. Et c'est pour cela qu'ils établirent ce même jour comme solennel pour des banquets et des réjouissances. Quant aux Juifs qui demeuraient dans les villes non murées et dans les villages, ils déterminèrent le 14e jour du mois d'Adar pour un jour de festin et de joie, en sorte qu'ils se réjouissent en ce jour et s'envoient mutuellement une partie des mets et des aliments. C'est pourquoi Mardochée écrivit toutes ces choses, et les ayant renfermées dans des lettres, il les envoya aux Juifs qui demeuraient dans toutes les provinces du roi, tant celles qui étaient situées dans le voisinage que celles qui étaient au loin, afin qu'ils adoptassent le 14e et le 15e jour du mois d'Adar comme des fêtes, et qu'au retour de chaque année, ils les célébrassent par des honneurs solennels. Parce que c'est en ces jours même que les Juifs se vengèrent de leurs ennemis, et que le deuil et la tristesse furent changés en gaieté et en joie. Et afin que ce fussent des jours de banquet et de réjouissance, et qu'ils s'envoyassent les uns aux autres une partie des mets, et qu'ils donnassent aux pauvres de petits présents. Les Juifs adoptèrent donc comme rite solennel tout ce qu'en ce temps-là ils avaient commencé à faire, et ce que Mardochée dans ses lettres leur avait mandé de faire. Car Aman, fils d'Amadat, de la race d'Agag, ennemi et adversaire des Juifs, avait médité le mal contre eux pour les perdre et les exterminer, et il avait jeté pour, ce qui en notre langue se traduit par le sort. Mais après cela, Esther entra auprès du roi, demanda avec insistance que par une nouvelle lettre du roi, ses efforts devinssent impuissants, et que le mal qu'il avait imaginé contre les Juifs retourna sur sa tête. En effet, on les attacha, lui et ses fils, à la croix. Et depuis ce temps-là, ces jours ont été appelés Pourim, c'est-à-dire jour des sorts, parce que le pour, c'est-à-dire le sort, avait été jeté dans l'urne. Et tout ce qui s'est passé est contenu dans le rouleau de cette lettre, c'est-à-dire du livre de Mardochée. Tout ce qu'ils souffrirent et les changements qui survinrent, les Juifs prirent pour eux, pour leur race et pour tous ceux qui voulurent s'associer à leur religion, l'engagement qui ne serait permis à personne de passer sans solennité ces deux jours. L'engagement qu'il ne serait permis à personne de passer sans solennité ces deux jours que cet écrit indique, et qui demande des temps déterminés, les années se succédant sans interruption. Ce sont ces jours qu'aucun oubli n'effacera jamais, et qu'à chaque génération toutes les provinces célébreront dans l'univers entier. Et il n'est aucune ville en laquelle les jours de Pourim, c'est-à-dire les jours des sorts, ne soient observés par les Juifs et par leur race, qui est liée par ces cérémonies. Et la reine Esther, fille d'Abihaïl, et Mardochée le Juif, écrivèrent encore une seconde lettre, afin que ce jour fût ratifié avec tout le zèle possible dans l'avenir. Et ils envoyèrent à tous les Juifs qui demeuraient dans les 127 provinces du roi Assuérus, afin qu'ils eussent la paix et reçussent la vérité, observant les jours des sorts et les célébrant en leur temps avec joie, comme l'avaient établi Mardochée et Esther, et comme ils avaient pris l'engagement d'observer, eux et leur race, les jeûnes, les cris, les jours des sorts, et tout ce qui est contenu dans l'histoire de ce livre qui est appelé Esther. Lecture de la Sainte Bible de Saint Jérôme, dite la Vulgate. Saint Jérôme de Stridon est docteur de l'Église. Cette traduction en français, réalisée par l'abbé Jean-Baptiste Glaire, est la seule traduction française officiellement approuvée par le Saint-Siège. Copyright jésusmarie.com le 26 février 2009. Fichier également placé sous licence Creative Commons. Le texte de la Bible de Saint Jérôme fut établi d'après les plus anciens manuscrits de la Bible. Les multiples manuscrits hébreux sous forme de rouleaux appartenant à la synagogue de Bethléem en Terre Sainte et les célèbres exemples d'Origène au IIIe siècle qui reproduisent sur 6 colonnes parallèles le texte hébreu et les 5 principales traductions grecques existant alors. Ces originaux hébreux furent détruits vers l'an 600 dans l'incendie de la bibliothèque de Césarée. La Bible Crampon et la Bible de Jérusalem sont établies d'après les textes hébreux dits massorètes, tardifs et moins fiables, ils ne remontent pas au-delà du 7e siècle. Les manuscrits découverts dans les grottes de Qumran ont manifesté la très grande fidélité de Saint Jérôme au texte hébreu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.